Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonsoir. Très heureux de vous retrouver en ce dimanche soir pour 3 heures d'émission en direct, comme à l'habitude de partie, mais 3 invités qui vont se succéder. Tout d'abord, à 18h, nous recevons successivement Jean-Pierre Chaline, qui est historien, professeur émérite d'université, et puis Frédéric Rouvillois, essayiste, professeur d'université lui aussi, à l'occasion de leur contribution dans ce superbe ouvrage d'histoire, La Nouvelle Histoire de France, aux éditions Passé Composé. Nous allons parler avec l'un de l'histoire de la bourgeoisie et avec l'autre de l'histoire du savoir-vivre. Et puis à 19h30, nous recevons le général Bellon, qui est en activité, qui commande le service militaire adapté. Le service militaire adapté, nous le verrons avec lui, c'est une superbe institution citoyenne, vraiment à ériger en modèle et en exemple. Je rappelle que vous pouvez poser vos questions, vous donner vos messages que nous proposerons à nos invités. Vous pouvez le faire par courrier électronique à l'adresse suivante courtoisie@rc.fr, courtoisie@rc.fr. Je crains que nous n'ayons pas de standard téléphonique ce soir, donc vos questions, vos remarques, eh bien, ça sera donc par courrier électronique. Nous abordons maintenant donc cette émission, et comme je vous le disais, nous recevons régulièrement les contributeurs, parmi la centaine d'entre eux qui ont participé à cette passionnante et très complète nouvelle histoire de France, dirigée par Éric Anceau et éditée aux éditions Passé Composé. Cet ouvrage imposant aborde tout d'abord l'histoire chronologique, puis de manière originale, une histoire par thème. Ainsi, la deuxième partie est consacrée au thème qui concerne la politique et les spiritualités. La troisième partie, l'espace et les sociétés. C'est ainsi que nous avions reçu Yves-Marie Bercier, par exemple, pour la société des temps modernes, du XVIe à la fin du XVIIe siècle, et plus particulièrement sur l'évolution des hiérarchies sociales à cette époque, au XVIIe siècle donc. Et dans les hiérarchies sociales, eh bien, il y a une classe sociale à l'histoire très ancienne qui aura un rôle déterminant, notamment dans la Révolution française. Il s'agit de la bourgeoisie. Et c'est ce premier thème que je vous propose ce soir d'aborder en compagnie de l'auteur justement de ce chapitre, de cette nouvelle histoire de France qui est consacrée à la bourgeoisie. Il s'agit de Jean-Pierre Chaline. Il évoquera la naissance et l'affirmation de cette classe sociale, puis sa contestation, en s'attachant naturellement, et tel qu'il le fait d'ailleurs dans ce livre, en dégager les traits communs et leur évolution. Et puis la quatrième partie de cette nouvelle histoire de France, eh bien, est consacrée au patrimoine et aux identités. Dans cette partie, nous évoquerons ce soir ce qui fut. Alors, est-ce que c'est encore le cas? On posera bien sûr la question à notre invité, ce qui fut une spécificité de l'identité française qui appartenait, appartient-elle encore à nos gènes, à notre patrimoine en tout cas immatériel? Il s'agit du savoir-vivre, et là encore, eh bien, nous aborderons cette histoire du savoir-vivre français avec la césure de la Révolution. Il y a un savoir-vivre avant la Révolution, il y a un savoir-vivre après la Révolution, c'est ce que nous verrons en compagnie de notre invité que vous connaissez bien, car il est un habitué de Radio Courtoisie. Il s'agit de Frédéric Rouvillois. Alors je vous propose, chers auditeurs, de commencer donc par la première partie de cette discussion avec Jean-Pierre Chaline pour ce chapitre consacré à la bourgeoisie et à son histoire. Je crois que nous avons Jean-Pierre Chaline par téléphone. Monsieur Chaline, bonsoir.
Bonsoir, Thierry Delcourt.
Eh bien, écoutez, on vous entend bien. Merci beaucoup d'être avec nous en direct pour évoquer ce soir l'histoire de la bourgeoisie. Alors, je ne sais pas si c'est la première fois que vous venez à Radio Courtoisie.
Oui, c'est la première fois.
Bon, eh bien, écoutez, bienvenue. Alors, on est très heureux de vous recevoir. Je vous présente aux auditeurs donc, de Radio Courtoisie. Vous êtes historien, vous êtes professeur émérite à l'Université de Paris 4, ce qui est l'Université de Paris-Sorbonne. Vous êtes un spécialiste de l'histoire sociale et culturelle des 19e et des 20e siècles. Vous avez, à côté de cela, de ces activités d'enseignant dans ces matières, et vous avez de nombreuses activités, parce que vous êtes aussi un spécialiste de l'histoire normande, particulièrement celle de Rouen, puisque vous êtes président de la Société de l'Histoire de Normandie et de la Société des Amis des Monuments Rouennais. Parmi d'autres activités, vous avez écrit de nombreux ouvrages, pour lesquels d'ailleurs vous avez eu de nombreux prix, notamment de l'Académie française, hein, le prix Alfred Ney, le prix René Petiet, le prix Biguet, pour donc ces différents ouvrages. Je cite quelques livres que vous avez écrits, parce que ceux que je cite nous ramènent bien sûr au thème de la bourgeoisie ce soir, et puis à ces thèmes normands. Alors vous avez écrit, c'était votre thèse d'ailleurs, je crois, « Les bourgeois de Rouen, une élite urbaine au XIXe siècle ». Et puis vous avez écrit aussi sur les dynasties normandes, ça c'est chez Perrin, vous avez publié chez Perrin. Alors ces dynasties normandes, je ne sais pas si ça fait référence à l'aristocratie ou si ce sont des dynasties bourgeoises.
Des dynasties d'affaires, essentiellement.
Dynasties d'affaires, donc de la bourgeoisie.
Oui, des dynasties industrielles, principalement.
D'accord. Qu'est-ce qu'il y a eu comme grande dynastie normande au point de vue industriel, sur le plan industriel?
Ville, c'était la première ville textile pour le coton au XIXe siècle, et on a eu comme ça des familles qui ont duré assez longtemps. Une famille illustre, c'était celle de Pouillet-Cartier, qui devint ministre des Finances après la défaite de 1870, mais il y en avait beaucoup d'autres, mais tout ça a disparu aujourd'hui.
Avec l'industrie, j'imagine. Hein, à Rouen, malheureusement, comme ailleurs. Et puis alors, vous avez aussi écrit un autre livre qui m'a vraiment intrigué, La Grande Guerre des Assiettes. Ça, c'est en 2016, c'est récent, aux presses de l'Université Paris-Sorbonne. La Grande Guerre des Assiettes.
Ça fait partie des diverses approches que l'on peut avoir en histoire aujourd'hui. Les assiettes illustrées, que l'on trouvait dans tous les ménages pratiquement, qui racontaient des histoires ou qui évoquaient des phénomènes politiques du moment, ont eu un très grand succès, et ça méritait une étude, car pendant la guerre de 14, aussi bien en France qu'en Allemagne, on a fabriqué ainsi des assiettes patriotiques qui étaient extrêmement intéressantes à analyser et à opposer.
Mmh. Et c'est ce que vous faites dans ce livre, des assiettes qui étaient fabriquées à Rouen ou
non,
pas forcément.
Non, c'était des assiettes qui étaient fabriquées par exemple à Creil, ou bien à Montargis, ou à divers endroits comme ça. C'était un objet plutôt populaire, si vous voulez, qui ne coûtait pas très cher et qui était extrêmement diffusé et qui permettait aussi de diffuser tout un message politique.
Alors, ce qui est frappant aussi dans votre riche parcours, c'est qu'il ressort, entre autres, hein, pardonnez-moi si je simplifie, mais deux grands centres d'intérêt. D'une part, effectivement, l'histoire sociale à travers l'histoire de la bourgeoisie, et puis la Normandie et Rouen. Je voulais savoir d'où venaient ces deux grands centres d'intérêt qui semblent, en effet, vous caractériser.
Que Rouen, objet de ma thèse, a été la façon pour moi de découvrir une bourgeoisie de province et de l'étudier par rapport à l'ensemble de la population de cette ville, c'est-à-dire à peu près 100 000 habitants pendant tout un siècle. Et c'est là que j'ai expertisé une méthode d'approche et découvert des quantités de choses.
Alors je vous propose justement que nous abordions ce soir avec vous pendant à peu près une petite trentaine de minutes. Ce thème, ce chapitre que vous avez consacré à la bourgeoisie dans cette nouvelle histoire de France, pourquoi a consacré un chapitre dans la partie espace et société justement à la bourgeoisie et à son histoire?
Éric Anceau a jugé qu'il fallait faire une place à la société, même si elle n'est qu'en troisième partie. Le concept de bourgeoisie reste aujourd'hui quand même extrêmement utilisé, sans qu'on le définisse jamais très bien d'ailleurs. Et c'est une constante dans la notion de bourgeoisie de parler de quelque chose qui n'a pas de définition précise, qui permet de jongler avec les termes et de faire beaucoup d'éléments de surprise du point de vue des résultats politiques, par exemple.
Vous écrivez au début de ce chapitre que le mot bourgeoisie, c'est un mot usé et sujet à de perpétuelles déviations de sens.
C'est une expression que j'aime bien de Marc Bloch dans son livre « L'étrange défaite », de dire que ce sont des mots usés par le temps et sujets à de perpétuelles déviations de sens.
Oui.
Et c'est vraiment très bien dit, c'est exactement ça, et c'est dans cet esprit-là que j'ai perçu ces quelques 8 pages bien courtes, mais dans lesquelles il fallait synthétiser un peu l'histoire de la bourgeoisie.
Et ça doit bien correspondre à quelque chose, justement, avec une certaine pérennité, puisque ce terme traverse les âges et commence tôt. Vous allez bien sûr évoquer la naissance de la bourgeoisie, mais c'est un terme qui, comme vous l'avez souligné, continue à être utilisé.
On continue à utiliser un terme d'origine médiévale. Les bourgeois, c'était les habitants du bourg par opposition aux paysans, et le bourg représentant un espace de liberté que n'avaient pas les serfs, bien sûr, dans leur village. Et c'est quelque chose qui va marquer cette catégorie sociale tout au cours des siècles, mais pendant tout le Moyen-Âge et l'Ancien Régime, la bourgeoisie a son importance, mais n'a pas le pouvoir politique et n'a pas non plus la reconnaissance sociale de ce qu'elle est devenue petit à petit du point de vue intellectuel, économique, etc. Et ça sera une des raisons de la révolution de 89.
Alors nous allons parler, mais pour bien comprendre le point de départ, le bourgeois c'est l'habitant des bourgs. Pourtant tous ceux qui habitent des bourgs ne sont pas des bourgeois. Il y a une double question en fait. Qu'est-ce qui désigne...
À l'intérieur des villes, une petite élite essentiellement économique, prend de l'importance et obtient des autorités locales, épiscopales, féodales, etc., des chartes définissant une certaine liberté, un certain nombre de droits, et comme ça, la bourgeoisie prend place, mais bien entendu, la bourgeoisie n'est pas toute la population des villes. Il y a à côté des classes très populaires qui sont à l'extérieur de cette bourgeoisie.
Peut-on dire que déjà, dès le Moyen-Âge, un bourgeois, certes, c'est l'habitant des bourgs qui a su effectivement conquérir un certain nombre de droits et de libertés par rapport aux serfs, mais que déjà, c'est le niveau de fortune? C'est le rang de la fortune qui va le désigner comme bourgeois.
Écoutez, vous avez déjà pensé à Jacques Coeur à Bourges, qui est un banquier fortuné, qui peut prêter de l'argent au roi. Et c'est voilà un exemple de ces bourgeois, mais il y en a partout comme ça, peut-être moins célèbres, qui prennent de l'importance, mais dont le seul élément de promotion serait de s'anoblir. Et ils vont essayer par divers moyens d'accéder à cette catégorie supérieure qui est le deuxième ordre, c'est-à-dire la noblesse. Et un moyen qui leur sera facilité, ce sera au XVIIe siècle, la paulette. Cette taxe qui permettait d'acheter des charges judiciaires, des charges anoblissantes quand on les avait exercées un certain temps ou un certain nombre de générations successives. Et par là, toute une élite bourgeoise va pouvoir devenir noble. Une noblesse, évidemment, qui n'est pas la noblesse d'armes, qui est une noblesse de fonction, mais qui est une partie de la noblesse. Mais la bourgeoisie en tant que telle restait inférieure. Le travail économique était jugé dérogeant pour un noble. Donc, il y avait quelque chose qui n'était pas satisfaisant. Et puis, alors, vous arrivez, déjà à l'époque de Louis XIV, un certain nombre des personnes qui entourent Louis XIV et de ses principaux collaborateurs sont des bourgeois, qui, comme Colbert, qui vont être anoblis. Donc, c'est un chemin qui a son importance, mais qui restera quand même limité, et qui fera que la bourgeoisie essaiera d'obtenir des droits, une reconnaissance par d'autres moyens.
Cet anoblissement, vous évoquez Colbert, il y en a certainement bien d'autres, c'est toujours via la Paulette, ou alors ils ont été anoblis pour service rendu. Est-ce que ça, c'est possible ?
Alors, bien sûr, cette accession de la bourgeoisie à la noblesse n'est pas appréciée de tout le monde. Saint-Simon parlera de la vile bourgeoisie. Donc, il restera un sentiment de dédain vis-à-vis de ce qui n'est pas noble. Et cela est très mal perçu, bien sûr, par ces bourgeois.
Oui, parce que vous, cette première partie de l'histoire de la bourgeoisie, consacrée donc à la naissance, hein, vous avez expliqué le Moyen-Âge, les bourgs, etc. Mais vous savez, vous soulignez quand même que cette classe sociale est capable d'héroïsme. En effet, elle fait des affaires, elle s'enrichit par les affaires, mais elle est capable d'héroïsme. Et cet héroïsme se manifeste, par exemple, vous le rappelez, par les bourgeois de Calais et puis aussi ceux d'Orléans face aux Anglais pourris. Parce que à Calais et Orléans, ce sont eux qui avaient le pouvoir, en quelque sorte.
Ce sont eux qui organisent la défense de la ville assiégée et qui finissent à Calais par se rendre, mais en même temps être les otages finalement, qui échapperont de justesse à la mort.
Oui.
Donc c'est quelque chose d'un peu exceptionnel peut-être, mais qui montre la place de ces bourgeois dans la ville.
Mais la place de ces bourgeois dans la ville, encore une question, puis nous allons passer en effet à une évolution radicale, capitale, qui est celle de la Révolution. Comment est organisé leur pouvoir ? Est-ce qu'ils ont... Y a-t-il des élections ? Comment ça se passe ? Quel est le pouvoir de la bourgeoisie dans les bourgs ?
Alors, il y a des modes divers qui peuvent être de type effectivement électoral. C'est en rapport souvent avec les corporations dominantes dans la ville qui sont les éléments les plus fortunés, les plus influents et qui s'arrangent pour obtenir les fonctions de maire de la ville ou de qu'on appellera autrement ailleurs, mais qui leur donne un certain pouvoir et une certaine reconnaissance, mais qui reste quand même inférieur à ce que peut être la noblesse quand elle est présente dans la même ville.
Alors, nous en arrivons, si vous voulez bien, à la Révolution. Est-ce que le tiers-État, justement, c'est le moyen qu'a choisi la noblesse pour... faire cette révolution? On dit que la révolution de 1789 est d'abord une révolution bourgeoise. Est-ce que c'est exact?
Alors, elle est certainement d'origine bourgeoise, à la mesure. On peut citer le fameux Sieyès, qui dira que veut le tiers-État être quelque chose. Mais le tiers-État, bien sûr, la bourgeoisie n'est jamais que l'élite, la petite couche supérieure de ce tiers-État. C'est-à-dire les gens qui sont instruits, les gens qui ont quelques moyens. Et c'est cette petite couche bourgeoise qui va finalement enclencher la révolution, mais avec l'appui, il faut le dire, d'une partie de la noblesse, pensez par exemple à Lafayette, avec une partie du clergé, pensez par exemple au futur Talleyrand. Tous ces gens-là ne sont pas des bourgeois et ils appuient le mouvement révolutionnaire avec parfois une certaine naïveté, parfois avec un sentiment très net de leurs intérêts, en abolissant les ordres privilégiés qui étaient le clergé et la noblesse. La bourgeoisie devient en fait l'élite nouvelle de la société, une élite qui va être fondée avant tout sur des moyens économiques, sur la fortune, et en même temps sur une certaine, un certain niveau intellectuel. C'est ce qu'on appellera volontiers les capacités, c'est-à-dire les gens qui sont capables par leur niveau intellectuel et leur situation, capable de gouverner, capable de voter. C'est ce que l'on appellera sous la monarchie restaurée les électeurs censitaires. Les seuls qui avaient le droit de voter étant ceux qui avaient un certain niveau de fortune marqué par le paiement de l'impôt. Donc c'est une nouvelle hiérarchie qui s'esquisse, dans laquelle la bourgeoisie prend sa place, pas forcément tout de suite la place principale. Je pense qu'il faut avoir recours à un historien et en même temps un penseur comme François Guizot, qui est un peu l'expression de cette bourgeoisie montante, bourgeoisie qu'il n'appelle pas comme ça. Pour lui, c'est la classe moyenne. La classe moyenne, alors avec un sens tout à fait différent de celui d'aujourd'hui qui est nettement en dessous, la classe moyenne entre l'aristocratie qui continue d'exister, mais de l'autre côté, le peuple, la masse du peuple. Cette classe moyenne qui, aux yeux de Guizot, est celle qui, depuis le Moyen-Âge, essaie de monter, affirme ses qualités et mérite donc d'accéder au pouvoir, ce qui lui paraît acquis avec la révolution de 1830.
Et vous écrivez d'ailleurs à ce sujet que c'est à cette époque, et notamment à l'époque napoléonienne, que se concrétise la notion de notable. Le notable, c'est le bourgeois,
les
en quelque
notables,
sorte.
Les notables qui sont en même temps les censitaires, enfin une couche sociale supérieure, dans une société qui se prétend égalitaire, mais qui ne l'est pas, dans la réalité, du point de vue des énormes différences de fortune, d'instruction, de qualités diverses qui permettent d'accéder, de garder le pouvoir.
Et c'est à cette époque que naît justement, avec le cours de Guizot, son cours d'histoire de 1828, c'est ce que vous écrivez, la notion de classe sociale, parallèlement d'ailleurs à ce que écrit Marx.
Oui, c'est amusant à rappeler, c'est le théoricien bourgeois par excellence François Guizot qui va aller chercher dans l'histoire romaine ce terme de classe sociale qui, à Rome, dans l'Empire romain, les citoyens étaient distingués par classe selon leurs moyens financiers, leurs moyens fiscaux, et la dernière catégorie, celle qui ne possédait rien sinon sa famille, ses enfants, ce qu'on appelait proles en latin, eh bien on les appelait les prolétaires. Et c'est ce terme de prolétaire que reprendra Marx, mais en oubliant que dans la société romaine, après les citoyens, il y avait toute la masse des esclaves qui changeaient tout et qui, eux, faisaient vraiment le travail. Autrement dit, il y avait une ambiguïté maintenue dans ces termes qui sont utilisés. Mais enfin, c'est amusant de voir que Marx reprendra des termes utilisés par le bourgeois François Guizot.
Alors Jean-Pierre Chaline, je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie qui nous écoutent que vous avez écrit ce chapitre consacré à la bourgeoisie, donc dans cette nouvelle histoire de France qui est publiée aux éditions Passé Composé. Vous avez un développement important justement dans ce chapitre concernant la bourgeoisie du 19e jusqu'au 20e siècle. Vous écrivez qu'elle n'a pas une bonne image. Vous citez par exemple le portrait charge du dictionnaire Larousse. Hein. Les bourgeois sont des individus mesquins.
Oui, si vous voulez, ce qui m'a toujours paru extraordinairement absurde,
oui.
C'est que d'une part, vous avez une dénonciation de la bourgeoisie comme une classe opprimant les autres par son pouvoir, ayant tous les pouvoirs. Marx, dans ses œuvres, présentera souvent cette puissance extraordinaire de la bourgeoisie. Et en même temps, quand on essaie de définir le bourgeois, eh bien, on n'a qu'un personnage totalement ridicule, un personnage mesquin, stupide, que l'on va dans toute la littérature, que ce soit les pièces de théâtre, les romans, qu'on va ridiculiser sans cesse. Alors comment se fait-il qu'une bourgeoisie toute puissante puisse être formée de bourgeois si stupides ? C'est sur cette absurdité que j'ai essayé de travailler dans ma thèse pour montrer que les bourgeois, c'était quelque chose de différent, qu'il fallait définir autrement et que ce n'était pas seulement défini par la richesse. Bien sûr, pour être bourgeois, il faut avoir un certain avoir, une certaine aisance, mais ça peut être extrêmement variable. Depuis le petit bourgeois qui arrive tout juste, jusqu'au millionnaire, au banquier, etc. Donc, l'avoir, ça compte beaucoup, mais ce n'est pas suffisant. Et à côté de l'argent, il y a la façon de s'en servir. Comment vivre en bourgeois ? Et c'est là l'élément intéressant que l'on avait un peu oublié dans les études faites jusque-là sous la direction d'historiens comme Ernest Labrousse, par exemple, qui était quand même très, très imbu de la conception marxiste, pour qui l'économie décidait du social et le social décidait du politique. Donc il y avait que l'économie qui comptait. En fait, bien sûr, l'économie compte, l'argent compte, mais vivre en bourgeois, c'est extrêmement important aussi. L'usage qu'on en fait, et c'est là qu'il y ait intérêt, au moins pour le 19e siècle, à chercher ce qui caractérise ces bourgeois. Et c'est en particulier le fait d'avoir à leur service un personnel ancillaire. La domesticité est très bon marché au 19e siècle, et on peut considérer que tout bourgeois a au moins une bonne ou au moins un élément de service de ce genre. En même temps, cet argent, il va s'en servir d'une façon démonstrative. Alors j'aime beaucoup une formule que m'avait donnée un de ces bourgeois de Rouen dont vous parliez tout à l'heure, et il me disait, le bourgeois, c'est celui qui a un piano dans son salon. Alors,
justement, Jean-Pierre Chaline,
je pense que dans cette formule, tout est dit.
Je voulais
justement... à la fois le salon qui suppose un certain logement, d'un certain standing, le piano qui implique une éducation, le salon qui en même temps suppose une vie de réception, tout est là-dedans, c'est une façon de vivre que tout le monde, bien sûr, ne peut pas faire, mais que la bourgeoisie arrive à obtenir.
Jean-Pierre Chaline,
je calculais que à partir de mon exemple rouennais, ça représentait à peu près 10% de la population d'une ville qu'on pouvait qualifier de bourgeois.
Jean-Pierre Chaline, je voulais relever justement cette phrase de votre chapitre consacré à la bourgeoisie dans la Nouvelle Histoire de France. Le bourgeois, c'est celui qui a un piano dans son salon. Et ça m'a fait penser à une émission que nous avons réalisée il y a quelques mois, consacrée à un compositeur français, une femme d'ailleurs, compositrice, du début, fin 19e, début 20e siècle, qui est Mel Bonis. Et Mel Bonis, ses parents étaient issus d'un milieu ouvrier, mais de l'aristocratie ouvrière en quelque sorte de l'époque. Et vraiment, son père a travaillé d'arrache-pied pour s'élever justement dans l'échelle sociale et devenir un bourgeois. Et dans le salon, il y avait un piano. Non pas que ses parents étaient mélomanes, loin de là, bien au contraire, mais parce que le piano, c'était l'attribut aussi de la bourgeoisie. Et la vocation musicale de compositrice de Melbonis, elle est née comme ça, par hasard, parce qu'il y avait un piano, ça lui donnait l'idée, elle, de jouer du piano, mais le piano, au départ, n'était là que pour le décor. C'est incroyable, hein ?
Oui, oui, mais ce genre d'éléments un peu mythiques, c'est tout à fait fondamental.
Oui.
Et puis alors, en même temps, être bourgeois, c'est à s'habiller d'une certaine façon. Pendant tout le 19e siècle, le haut de forme, le costume extrêmement strict et sombre pour les hommes, une certaine façon de s'habiller pour les femmes, tout ceci fait partie d'un modèle. Et puis en même temps, on pourrait évoquer ici, mais vous allez en parler tout à l'heure avec oui. Frédéric Rouvillois, tout un savoir-vivre que l'on apprend éventuellement avec des manuels comme celui de la fameuse baronne Staff,
oui.
qui expliquait comment vivre finalement en bourgeois, mais sur un modèle plus ou moins inspiré de celui de l'aristocratie.
Oui. Mais merci.
Donc toujours oui. Essayant d'imiter ce qui est un peu plus oui. haut.
Merci d'introduire la partie suivante.
Derrière cette petite élite bourgeoise, je vous dis à peu près 10%, vous avez à peu près 20% de classe moyenne au sens moderne du terme, c'est-à-dire des petits employés, des catégories comme ça, qui n'ont pas tout à fait l'aisance, qui n'ont pas tout à fait l'instruction ni les moyens, mais qui s'efforcent d'imiter la bourgeoisie en imitant le costume, en essayant d'avoir aussi un logement un petit peu un peu plus orné. Et puis alors, parmi ces caractéristiques de la bourgeoisie, il y a aussi un comportement dans la vie, dans les mentalités que vous allez retrouver à travers, par exemple, les soins à la recherche d'un logement dans un certain quartier. On peut parler de quartier bourgeois, de maison bourgeoise. Et puis en même temps, d'autres choses aussi, les choix matrimoniaux. On ne se marie pas avec n'importe qui. La recherche d'éléments du même niveau social, ou même d'un petit peu plus, avec tout le problème des dots. En fait, toutes ces choses-là contribuent à caractériser une classe sociale qui, au XIXe siècle, arrive à dominer très bien en France.
Jean-Pierre Chaline, nous arrivons malheureusement au terme de cette émission, mais j'aimerais lire un message d'auditeur. Et puis vous posez encore une question pour conclure donc votre intervention. Alors le message de l'auditeur. Louis XIV a-t-il favorisé la nouvelle noblesse issue de la bourgeoisie contre la noblesse traditionnelle et n'a-t-il pas ainsi préparé le terrain de la révolution ? La bourgeoisie d'affaires, écrit notre auditeur, n'était-elle pas favorable à la réforme ? Et ceci n'a-t-il pas aussi contribué à répandre les idées des Lumières ? Doit-on la distinguer de la noblesse de robe ?
Bon, je vois. Je pense que Louis XIV a employé des bourgeois, je vous parlais de Colbert, mais il y en a beaucoup d'autres. Et si vous regardez un peu les célébrités de cette époque, Racine, Corneille, ce sont des bourgeois. Molière, c'est un bourgeois. Mais alors Molière, c'est typiquement le bourgeois qui va se moquer des bourgeois. Mmh. Inventer Monsieur Jourdain, il fallait le faire. Or, Molière, finalement, à travers Monsieur Jourdain, on pourrait dire qu'il se moque de ses propres ancêtres, qui étaient des marchands. Donc, il y a toute une ambiguïté entre le recours à la bourgeoisie, à qui l'on permettra de s'anoblir dans les meilleurs cas, et puis la dérision dans laquelle on va la garder, de façon continue pendant tout l'Ancien Régime, à travers donc les pièces de théâtre comme Le Bourgeois Gentilhomme, mais ça va continuer pendant tout le XIXe siècle, alors que la bourgeoisie arrive au pouvoir, on va continuer de se moquer du bourgeois à travers des œuvres comme les œuvres comme Le Gendre de M. Poirier, qui est une pièce de théâtre d'un grand succès de l'époque, et chez des auteurs comme Flaubert. Flaubert, qui est le bourgeois même par ses moyens financiers, par son genre de vie, etc., et qui ne cessera de dire du mal des bourgeois.
Et d'ailleurs, vous soulignez que dans son dictionnaire des idées reçues, il manque curieusement un article bourgeois. Jean-Pierre Chaline, nous arrivons malheureusement au terme de l'émission. J'ai une dernière question à vous poser. Y a-t-il encore, au XXIe siècle, en France, une bourgeoisie ?
Alors, bien entendu, ce sont souvent ceux qui sont le plus qui essaient de l'être le moins. Je voudrais quand même évoquer un petit peu mai 68. Qui a fait mai 68 ? Les étudiants à l'époque, c'était à 90% des fils de bourgeois. Et on découvre là un mécanisme que l'on aurait pu observer aussi au XIXe siècle, à savoir que la bourgeoisie, en se critiquant elle-même, arrive à se replacer dans les meilleures positions de pouvoir. Que sont devenus les 68ards aujourd'hui ? Ils sont au pouvoir, leurs idées sont passées également à la une. Autrement dit, la bourgeoisie a une espèce de génie pour s'auto-critiquer et se renouveler sans arrêt dans cette position supérieure. Et c'est quelque chose que l'on ne regarde pas assez. Mais si vous, sans vouloir faire de politique, si vous regardiez certains partis aujourd'hui, vous y reconnaîtriez l'existence même de cette classe bourgeoise.
C'est une classe bourgeoise qui pratique la marche, c'est ça que vous voulez dire, Jean-Pierre Chaline ?
Une classe bourgeoise qui, bien entendu, dit le plus grand mal de ceux qu'elle considère comme des bourgeois, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas fait cette espèce de pirouette qui leur permet de retomber sur leurs pieds.
Très bien, Jean-Pierre Chaline, merci beaucoup d'être venu ce soir en direct, donc évoquer cette histoire de la bourgeoisie telle que vous le faites dans ce chapitre bourgeoisie justement de ce superbe recueil La Nouvelle Histoire de France publié aux éditions Passé Composé. Merci beaucoup à vous, Monsieur Chaline. À très bientôt, je l'espère, à ce micro. Bonne soirée à vous, au revoir. Alors, chers auditeurs, nous faisons une petite pause rapide, le bobino de la radio, le message. Et puis nous recevons notre invité suivant. Jean-Pierre Chaline a fait quasiment l'introduction puisque nous allons parler du savoir-vivre et de son histoire.
Vous avez fait le choix de nous rester fidèles. Vous avez fait le choix d'écouter Radio Courtoisie. Vous avez fait le choix de nous soutenir parce que vous êtes libre. Parce que pour vous, tout comme Radio Courtoisie, la liberté de penser, la liberté de parler, la liberté de chercher sont primordiales pour vous. Radio Courtoisie vous offre désormais le choix d'écouter nos podcasts partout et tout le temps sur les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. Gratuitement, pour que toujours cette liberté qui nous unit, qui nous est chère, demeure.
Eh bien, chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous avons introduit en effet le thème de cette deuxième partie qui est consacrée à l'histoire du savoir-vivre, au savoir-vivre tel que notre invité Frédéric Rouvillois raconte cette histoire du savoir-vivre dans cet ouvrage « La nouvelle histoire de France » aux éditions Passé Composé. Ce savoir-vivre se trouve dans la quatrième partie de ce livre, ce recueil passionnant et très complet. C'est la partie patrimoine et identité. Et Frédéric Rouvillois va nous expliquer, va nous raconter bien sûr l'histoire du savoir-vivre français, mais en quoi surtout c'est vraiment un élément qui compose, qui appartient à notre identité. Nous demanderons naturellement aussi ce qu'il en reste au XXIe siècle en France. Est-ce qu'il y a toujours un savoir-vivre particulièrement français, ou celui-ci est-il en voie de disparition? Frédéric Rouvillois, bonsoir.
Bonsoir.
Eh bien, merci beaucoup d'être avec nous ce soir en direct pour évoquer, en effet, l'histoire du Savoir vivre. Alors, les auditeurs de Radio Courtoisie vous connaissent très bien. Vous venez souvent, en effet, à cette antenne, mais je vais quand même vous présenter rapidement. Vous êtes essayiste, romancier, juriste, vous êtes professeur d'université, vous êtes aussi un spécialiste du droit constitutionnel et de l'histoire des mœurs des représentations politiques. Outre vos nombreuses responsabilités, vous êtes aussi le directeur éditorial des éditions de Flore, ce qui nous avait valu le plaisir de vous recevoir il y a quelques mois pour le livre de posthume hein, de Maxime Tandonnet, que vous avez publié en effet aux éditions de Flore. Vous pouvez nous rappeler le titre d'ailleurs de ce livre.
Et donc ça s'appelle le ministère de l'ordre moral, hein, donc c'est un... Une sorte de dystopie, hein, uchronie et dystopie. Donc c'est quelque chose qui a lieu dans un avenir relativement proche, mais un avenir absolument effrayant, et d'autant plus effrayant qu'il est extrêmement plausible. Et donc Maxime Tandonnet, qui vous savez avait été un très proche, notamment de Nicolas Sarkozy lorsqu'il était président de la République, connaissant donc très très bien finalement les milieux supérieurs de l'État, décrit la manière dont ça se passe, et le résultat est, je trouve, à la fois bluffant, effrayant et absolument passionnant. Et donc j'engage les auditeurs de Radio Courtoisie effectivement à aller sur le site des éditions de Flore pour acheter ce roman donc, de Maxime Tandonnet, Le mystère de l'ordre moral, qui était vraiment un grand bouquin.
Et Frédéric Ovula, ce qui est un peu inquiétant, c'est que ce livre est effrayant, mais vous précisez qu'il est plausible. Hein. c'est vraiment effrayant.
Oui, mais s'il n'était pas plausible, il ne serait pas effrayant. Enfin, on n'est pas dans la farce, ni dans la blague, ni dans la manière. On est dans quelque chose qu'on touche vraiment du doigt. Et voilà, on est un petit peu en permanence entre le rire et les larmes. Il y a un côté un peu expérien, si vous voulez, dans ce bouquin, toutes choses égales par ailleurs. Voilà. On sent qu'on est à deux pas que ce genre de choses-là puisse arriver.
Alors je, pour achever votre présentation, je précise que vous êtes aussi chroniqueur dans le mensuel Causeur et puis membre du comité éditorial du magazine L'Incorrect. Vous avez écrit de très nombreux livres, d'ailleurs plus d'une cinquantaine de livres, avec deux sur différents sujets, mais on retrouve vraiment deux sujets qui sont certainement parmi vos grands sujets et qui nous ramènent à la présentation de votre chapitre ce soir. Vous avez écrit effectivement sur l'histoire des mœurs, sur la politesse, le savoir-vivre. Je citerai par exemple l'histoire de la politesse de la Révolution à nos jours. Ça, c'est chez Flammarion. En plus, c'était absolument traduit en espagnol, en portugais et en chinois aussi.
Oui, mais
ça, c'est incroyable.
C'est incroyable sans l'aide, parce que les Chinois sont justement, vous savez que c'est l'autre grand pays de la politesse. Autrefois, c'était la Chine, et ça l'a été jusqu'à, grosso modo, jusqu'à la révolution successive du XXe siècle, et surtout jusqu'à la révolution. La prise de pouvoir des communistes en 49, et ensuite, bien sûr, l'épouvantable révolution culturelle qui a été une véritable mise à mort de la politesse chinoise, et qui est très intéressante aussi pour nous par rapport à l'histoire de France, parce que il y a quand même une ressemblance aussi avec ce qui se passe en France sur la politesse classique, la politesse d'ancien régime. Lors de notre révolution à nous, et surtout lors du moment le plus dur, le plus aigu de cette révolution, donc grosso modo entre 1792 et 1794 et les années suivantes, si vous voulez. Mais voilà, et dans les deux cas, effectivement, si vous voulez, la politesse qui est en fait qui structurait la société et qui la pacifiait, hein, et lui donnait sa beauté, sa poésie, etc. Tout ça va être écrabouillé au nom au nom du progrès, au nom de l'égalité, au nom des idéaux terrifiants qui sont au fond assez proches en 1792 en France et en 1968 ou 9 en Chine.
Oui, ça ressort de votre livre. Vous nous expliquez et vous l'illustrez que les révolutionnaires n'aiment pas la politesse. Hein. Et ça nous rapproche un peu des débats à l'Assemblée nationale actuellement. Hein.
Oui, il y a un peu ça. C'est-à-dire que, si vous voulez, effectivement, les révolutionnaires de, enfin, de notre révolution à nous, notre grande révolution, comme certains disaient, axée autour des thématiques de liberté, égalité, fraternité, si vous voulez, voilà, ça, ils ont le sentiment d'une espèce d'incompatibilité absolue entre ce qu'implique la politesse, c'est, par exemple par rapport à la liberté, la politesse c'est un ensemble de contraintes, hein, d'obligations, donc de limitations à une liberté totale, d'égalité, puisque la liberté, la politesse suppose de prendre en compte les différences entre les personnes. On ne se comporte pas de la même manière avec un adolescent et avec un vieux monsieur ou une vieille dame. Donc voilà. Troisième point, la fraternité, puisque dans leur idée, effectivement, bah, dans un peuple de frères, il n'y a plus de différence, il n'y a plus de. Et donc, il n'y a plus besoin d'une politesse, finalement. Hein. Et donc, si vous voulez, c'est sur la base de cette trilogie soi-disant sacrée que les révolutionnaires de 92, hein, Saint-Just qui explique que la grossièreté est républicaine, hein, les révolutionnaires de 92 ils vont éliminer les principes de la politesse, notamment en criminalisant, en pénalisant un certain nombre de comportements. Par exemple, vous avez, j'ai pas mal écrit là-dessus dans l'histoire de la politesse, hein, et c'est toujours un petit peu, les gens ne se rendent pas compte, mais c'est quand même absolument fascinant, le fait que le vouvoiement, ou que l'emploi de mots comme monsieur et madame, le vouvoiement est interdit. À l'époque, quand on interdit quelque chose et qu'on le fait quand même, vous savez que ça rigole pas, hein, c'est, voilà. On risque assez fort d'être mis en prison, d'être considéré comme suspect. Et une fois qu'on est considéré comme suspect, on a d'assez fortes chances d'être jugé
et
d'être
guillotiné.
Et éventuellement guillotiné. Donc, vous voyez, voilà, tout ça, effectivement, les révolutionnaires français de 92-93, l'époque de la terreur, hein, de Robespierre, voilà, non seulement ils sont hostiles à la politesse, mais ils prennent les moyens de l'éradiquer, de la supprimer. Et de faire comprendre aux gens qui l'utilisent quand même qu'ils sont des contre-révolutionnaires, donc des ennemis de la révolution, donc des ennemis tout court.
Alors vous avez un intérêt particulier pour le savoir-vivre et la politesse. Alors vous allez nous préciser ce que c'est que le savoir-vivre, bien sûr, et la part de la politesse dans le savoir-vivre. Est-ce que ça désigne la même chose ou pas? Mais vous avez donc écrit aussi de nombreux autres livres, hein, un dictionnaire nostalgique de la politesse, Marion récemment, Politesse et politique, encore plus récemment, aux éditions du CERF, puis bien d'autres, même une histoire du snobisme. Donc vous avez beaucoup pris sur ce sujet, d'où vient ce centre d'intérêt?
Écoutez, je dirais, si je fais un peu d'autocritique, hein, un petit peu à la maoïste, hein, le centre d'intérêt, il vient du fait que, voilà, comme le disait admirablement et de façon passionnante, comme toujours Jean-Pierre Chaline tout à l'heure, je suis un bourgeois, si vous voulez, Il y a une autre, il a un petit peu sous-entendu, mais voilà, il nous disait que le bourgeois, c'est celui qui a un piano dans son salon. Le bourgeois au XIXe siècle, c'est aussi celui qui a, comme il le disait, hein, un manuel ou plusieurs manuels de savoir-vivre dans sa bibliothèque. Si vous voulez, c'est quelque chose qui est forcément, quand on est un bourgeois et que par ailleurs on est un intellectuel, on va dire, qui sont mes deux défauts principaux, enfin rien d'autre, mais on s'y intéresse forcément comme un objet, quelque chose de tout à fait passionnant, surtout lorsqu'on vit dans une société qui dans laquelle l'incivilité est évidemment de plus en plus conçue comme non seulement acceptable, mais souhaitable. Hein. Moi, je suis né en 64, donc 4 ans avant mai 68, si vous voulez, je nais dans une société où, à l'époque, vous savez, j'ai regardé ça d'un peu près, dans les années, à la fin des années 60, début des années 70, quand on fait des sondages sur la politesse, justement, la plupart des gens qui répondent aux sondages, à l'époque, considèrent que c'est une vieillerie bourgeoise, que ça n'a plus aucun intérêt, que c'est du passé et que de nos jours, dans une société éclairée, juste, fraternelle, égalitaire, etc., bah, elle n'a plus sa place et qu'il faut l'éliminer. Donc, toutes ces raisons font que je m'y suis intéressé. Et puis, l'autre raison, c'est que j'ai un troisième défaut qui est d'être professeur de droit et donc juriste, et donc de m'intéresser aux normes. La politesse, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un ensemble de normes, c'est-à-dire des règles qui vont être élaborées d'une certaine manière. Une des questions, c'est de savoir comment, par qui, etc., qui vont être élaborées d'une certaine manière, qui vont être imposées finalement aux membres du groupe social dans lequel ces normes apparaissent, et qui vont éventuellement être assortis de, comme n'importe quelle règle de droit, ou de grammaire d'ailleurs, qui vont être assortis de sanctions, c'est-à-dire que ceux qui ne respectent pas les règles vont, comme pour des règles de droit, vont être sanctionnés d'une certaine manière, les sanctions pouvant aller depuis le ridicule jusqu'à l'exclusion du groupe, ou même éventuellement, j'en parle d'ailleurs dans le livre, dirigé par Eric Anso, jusqu'au duel, qui est en fait, lorsqu'on y réfléchit, je me rappelle que la première fois que j'ai compris ça, j'ai l'impression d'être une sorte d'illumination. Le duel, c'est en réalité la sanction ultime des règles de politesse, c'est-à-dire celui qui effectivement commet une très grave impolitesse, jusque finalement assez récemment, puisque on continue de se battre en duel jusqu'à que dans les années 60, pratiquement, celui qui commet une grave impolitesse, il est susceptible d'être provoqué en duel par quelqu'un d'autre qui va éventuellement le blesser ou pourquoi pas le tuer.
Oui, vous écrivez, jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, le duel est conçu comme la sanction ultime de ses usages. C'est le savoir-vivre qui encadre le duel. Il y a, par exemple, vous citez ce livre, L'art du duel de Tavernier, qui a été écrit en 1885, qui codifie vraiment toute la pratique du duel.
C'est vraiment c'est l'un des éléments. Alors, les manuels de politesse n'en parlent pas tous, certains en parlent, mais à l'époque, mais pas tous. Mais il est clair que c'est tout à fait lié à cette civilisation de l'époque où, effectivement, lorsque on commet une très grave impolitesse, éventuellement, on est susceptible d'être provoqué en duel. Alors, on peut aussi refuser le duel, c'est pas. Mais à ce moment-là, on se ridiculise et on s'exclut soi-même du groupe. Voilà. Donc, et puis par ailleurs, effectivement, si vous voulez, la guerre de 14 va mettre un peu fin un petit peu à ce duel qui ordinaire, on va dire. À partir de la guerre de 14, il y en a plus beaucoup, mais il y en a encore un petit peu. Entre deux guerres, il y en a encore. Et ça va jusque dans les années 60. C'est Gaston Defferre se bat en duel, Jean-Marie Le Pen aussi. Enfin, il y a des. Voilà, c'est quelque chose qui ne disparaît pas complètement en 1918 avec l'armistice.
Ce sont de vrais duels, ces duels que vous mentionnez du XXe siècle, parce que ce manuel du duel que l'on vient de situer, que vous mentionnez dans ce chapitre consacré au savoir-vivre dans la nouvelle histoire de France, aux éditions passées composées, ce manuel de duel, l'art du duel de Tavernier, précise bien que le duel, il ne s'agit pas de se piquer, quoi. On cherche vraiment à blesser ou voire à tuer son adversaire. Donc ces duels du XXe siècle, c'est un peu des duels pour la galerie ou ce sont des duels dans cet état d'esprit, vous parlez de Defferre, de Jean-Marie Le Pen.
Non, ça peut être ce sont de vrais duels. Alors, on a en tête un peu, si vous voulez, des duels tragiques, notamment au XIXe siècle, en particulier duel de Pushkin, vous savez, où il est touché, il va agoniser pendant 3 jours, enfin les trucs atroces. En principe, au 20e siècle, c'est quand même plutôt des duels à l'épée. Et donc, généralement, c'est quand même moins mortel, mais enfin, ça peut arriver encore. Je veux dire, il y a encore. Vous vous souvenez peut-être, notamment chez Maupassant, il y a beaucoup de textes encore sur le duel, sur le duel au pistolet ou à l'épée. Donc, on est à la fin du 19e siècle. Il y a beaucoup de cas de figure. Bernanos parle notamment d'un duel très célèbre qui met aux prises notamment Arthur Meyer, qui était le patron d'un journal royaliste un peu mondain qui s'appelle Le Gaulois. Enfin voilà, c'est les choses qui sont encore à l'époque où Bernanos écrit ce texte, c'est La Grande Peur des Bien-Pensants, c'est en 31. Voilà, le duel reste encore quelque chose de tout à fait commun. Hein. Alors de nos jours, ça a à peu près disparu, mais en tout cas, ça a disparu sous sa forme polie, en quelque sorte, hein, civilisée. Hein. Je pense que à beaucoup d'égards, si vous voulez, les règlements de compte entre narcotrafiquants ou autres, c'est des sortes de duels, des duels barbares, hein, des duels qui effectivement conduisent à la mort. Mais
enfin, ce n'est pas très codifié quand même.
C'est pas très codifié, non. C'est semblant. Hein,
oui, oui, c'est... tout est permis. Hein, donc, or que dans le duel, justement, par rapport au manuel tenu savoir-vivre. Tout n'est pas permis et tout est codifié.
Encore, on revient à ce que je vous disais à l'instant, c'est-à-dire qu'au fond, c'est un ensemble de règles, un ensemble de normes, voilà, des normes qu'il faut respecter. Si on ne respecte pas ces normes, eh bien, on est discrédité, on est ridiculisé, c'est justement ce qui se passe, d'ailleurs, avec le fameux duel d'Arthur Meyer, hein, parce qu'on prétend que Arthur Meyer, à un moment donné, saisit l'épée de son... C'est avec Drummond, hein, je crois, l'adversaire, Édouard Drummond. Il saisit l'épée de Drummond et il en profite pour le piquer. Et voilà, évidemment, c'est pas autorisé. Et la question, c'est de voir, est-ce qu'il a vraiment fait? Et en sachant que s'il a vraiment fait, ben, il va être complètement... il va être... complètement marginalisé. Enfin, c'est la fin de sa carrière, de sa réputation mondaine, de sa...
Alors, Frédéric, je voudrais revenir à ce qu'a dit Jean-Pierre Chaline tout à l'heure. Donc, il citait la baronne Staff que vous citez au début de ce chapitre. Hein. Je lis ce que vous écrivez. La baronne Staff est assez patriote pour rappeler à ses lecteurs de la fin du 19e siècle le rapport singulier existant entre la politesse et l'identité française. Alors, vous avez en effet écrit ce chapitre consacré au savoir-vivre dans cette partie patrimoine et identité. En quoi le savoir-vivre est un composant important de l'identité française? À la fin de cet entretien, on vous demandera si c'est toujours le cas, hein, avec l'évolution au XXIe siècle, à notre époque du savoir-vivre et de la politesse. Vous alternez souvent entre savoir-vivre et politesse. Est-ce que ce sont les deux termes? Comment vous définiriez le savoir-vivre et la politesse d'ailleurs? Voilà, double question. Identité et définition.
Alors, tout d'abord, je pense que les termes comme politesse, courtoisie, savoir-vivre, etc., sont grosso modo, on peut toujours s'amuser effectivement à imaginer des distinctions subtiles, des différences, mais voilà, pour moi, c'est à peu près équivalent, et d'ailleurs, au XIXe siècle, qui est un peu la grande époque hein, de la politesse bourgeoise, comme Jean-Pierre Chaline nous l'a dit aussi, hein, on utilise le mot, enfin, les manuels qu'on retrouve dans la bibliothèque des bourgeois peuvent s'appeler manuel de civilité, manuel de politesse, manuel de savoir-vivre. Ce sont des termes à peu près équivalents et je pense qu'il n'y a pas de raison plausible de le distinguer. D'accord. Dans la mesure où, dans tous les cas, on revient à la même chose et à une définition que moi que j'adore et que je trouve vraiment absolument extrêmement éclairante sur tous les plans, c'est la définition que donne La Bruyère, donc à la fin du XVIIe siècle, le grand siècle français, qui définit donc la politesse comme, je cite, une certaine attention à faire par nos paroles et par nos manières, les autres soient contents de nous et d'eux-mêmes. Voilà, pour moi, voilà, un peu tout est dit dans cette phrase, c'est l'attention à faire que par nos paroles et par nos manières, les autres soient contents de nous et d'eux-mêmes. L'idée c'est ça, c'est de que les autres soient contents de nous et d'eux-mêmes, c'est-à-dire l'idée c'est de reconnaître aux autres, reconnaître aux autres leur qualité, leur valeur, etc. Reconnaître ce qu'ils sont, justement, dans leur identité. Hein, et en sachant que, ce faisant, on se montre respectueux à leur égard. Et donc, ils vont être contents qu'on les reconnaisse pour ce qu'ils sont, pour leur qualité. Ils vont être contents d'eux-mêmes. Ils vont être contents de nous parce qu'on a fait l'effort de le faire. Un effort que la Bruyère appelle une certaine attention. Il précise que cette politesse va se manifester de deux manières, par nos paroles. Hein, la parole a évidemment une très grande importance hein, dans cette thématique de la politesse, et par nos manières, donc les gestes, la façon d'être avec eux, la façon de se comporter, la façon de leur montrer que voilà, on les tient pour des gens qui ont une certaine valeur, une certaine qualité, etc., qui correspond à leur statut, à leur âge, à leur voilà. Donc la politesse définie par la Bruyère, donc à cette époque fabuleuse du siècle de Louis XIV, c'est ça. Et à ce propos, donc l'une des questions qui pourrait se poser à propos de cette notion de patrimoine et identité, hein, c'est voilà, qu'est-ce que c'est que la politesse pour la France? Et la réponse, c'est que ça a été depuis longtemps, et je dirais presque depuis toujours, quelque chose de vraiment important.
Voilà. Frédéric Roulet, je vous interromps, pardonnez-moi, mais je voudrais vous citer, parce que c'est une histoire longue, l'histoire des politesses en France. Hein. Vous écrivez vous-même, établir une histoire des politesses en France constituerait une entreprise aussi exaltante que démesurée. Vous faites, quand vous racontez l'histoire de la politesse en France, pour montrer ce qu'il y a de particulier, justement, vous faites commencer l'histoire quand même à 1298, mais vous écrivez que c'est depuis la Renaissance que la politesse est perçue à l'intérieur et à l'extérieur des frontières comme l'un des caractères marquants de l'identité française. Alors pourquoi, comment on est arrivé à ça, et puis qu'est-ce qu'elle a de particulier cette politesse française? Comment a-t-elle traversé d'ailleurs le temps? Vous avez parlé de l'œuvre destructrice de la Révolution, notamment.
Alors, comme je disais, donc c'est effectivement au moment de la Renaissance, hein, à l'époque notamment de François Ier, vous voyez, voilà, les châteaux de Loire, etc., que cette idée que la France a peut-être pris le relais, si vous voulez, de l'Italie, comme étant un peu le fer de lance ou le lieu fondamental de la politesse, notamment par rapport aux autres grandes puissances qui existent à l'époque, hein, en particulier germaniques ou anglaises. On considère en particulier à l'époque déjà que voilà, le monde germanique au fond se moque de cette politesse, c'est pas son truc, notamment parce que voilà, le monde germanique est perçu en France à l'époque comme un monde qui est à la fois, on va dire, à la fois grossier et sérieux, alors que la politesse, c'est française notamment, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire, la politesse française est conçue comme, j'ai essayé effectivement de trouver les éléments, les constantes de cette politesse française. Il y a trois éléments. Hein. Mm-hmm. Il y a l'idée de distance, donc une sorte d'ironie, y compris sur la politesse et sur soi-même. Et donc, on n'est pas dans le sérieux, on n'est pas dans le rigide. Il y a l'autre élément, une certaine souplesse, qui est évoquée par exemple par Montaigne, hein, Montaigne qui explique dans les essais que, disons rapidement, trop de politesse tue la politesse. Il explique, j'ai vu souvent des hommes inciviles par trop de civilité. et importun de courtoisie. Vous voyez, c'est sur courtoisie, c'était le moment de citer ce mot. Voilà. Donc, il faut savoir être souple dans justement ce maniement des règles de politesse. Voilà, on n'est pas dans quelque chose de. Il s'agit effectivement de normes, mais il s'agit de ce qu'on appellerait au XXe siècle, au XXIe siècle, un droit souple, une sorte de soft law, en quelque sorte, et c'est comme ça qu'il faut la concevoir. Et enfin, cette politesse française est une politesse qui est effectivement raffinée, et non pas rugueuse ou sommaire. Et je cite effectivement dans mon petit papier de cette nouvelle histoire de France, la controverse entre Rousseau et Voltaire, hein, Rousseau qui a effectivement le côté suisse, le côté bon sauvage, etc., qui explique que, au fond, la politesse, c'est quelque chose de tout à fait secondaire et même finalement dangereux, anti-républicain, etc. Et en face, Voltaire, qui lui répond avec une ironie absolument fabuleuse et qui lui prend la défense de cette politesse française. Vous savez que Voltaire a écrit un ouvrage qui s'appelle « Le siècle de Louis XIV » dans lequel il explique assez longuement justement comment finalement au XVIIe siècle, bon, il y a le XVIe effectivement où ça commence, mais le XVIIe c'est vraiment le siècle français hein, et le siècle où la politesse française s'impose comme étant une sorte de modèle finalement on va dire au reste du monde, hein, reste de l'Europe, oui. Et donc au reste du monde.
Frédéric Rouvilleur, est-ce pour cela qu'on parle de cette politesse est constitutive de notre identité, où vous insistez beaucoup dans cette histoire de la politesse et du savoir-vivre que vous faites dans ce chapitre? Vous avez cité La Bruyère, vous venez de parler de Voltaire, et notamment qui insiste sur le rôle modèle en la matière de Louis XIV, et vous citez aussi Taine, la monarchie a produit la cour qui a produit la société polie. Pourquoi ça s'est arrivé en France? Pourquoi en France? Ce sont les personnes, c'est Louis XIV, c'est François Ier.
C'est quelque chose que j'ai sur lequel j'ai beaucoup réfléchi dans un autre livre plus sérieux, même si la couverture est.
Le chapitre est sérieux. Hein
Oui, mais plus développé. Si
plus développé, vous reviendrez peut-être.
Mon bouquin qui s'appelle « Politesse et politique
»,
dans lequel justement, qui est paru aux éditions du Cerf, c'est en 2024, où j'essaie justement de montrer que la politesse est nécessaire à un État au sens classique du terme, un État souverain, nécessaire parce que, justement, la politesse a pour fonction, notamment, d'éviter les frictions au sein de la société, donc d'éviter les conflits, d'éviter les guerres civiles, les guerres intestines, qui pourraient sinon se multiplier. Donc voilà, je pense que la politesse est importante pour dans un État dans lequel il n'y a pas du tout de politesse, un État dans lequel on est dans l'incivilité permanente, et vous voyez ce que je veux dire, c'est un État qui a du mal à maintenir les choses, à maintenir l'ordre public, à se tenir debout, à faire en sorte que la société puisse continuer. J'évite le terme de vivre ensemble, mais c'est quand même un petit peu l'idée. Et réciproquement, si vous voulez, dans ce livre, je fais ce que j'appelais une brève histoire de politique de la politesse, et j'essaie de montrer que, au fond, historiquement, lorsqu'il n'y a pas d'État, lorsque l'État est trop faible, eh bien, la politesse s'effondre. Et on peut suivre, si vous voulez, chronologiquement, non seulement en Occident, mais également ailleurs, l'espèce de conjonction entre le fait qu'il y a une politesse réellement consistante et qui joue son rôle pacificateur, de fluidification des rapports sociaux, et l'existence d'un pouvoir souverain véritable. Voilà, j'ai essayé de le démontrer point par point et de manière assez détaillée. Et voilà, c'est la réponse à votre question. Au fond, c'est l'un des éléments de la réponse à votre question. Là, je pense que l'une des raisons pour lesquelles, effectivement, l'une des raisons pour lesquelles la politesse va se développer en France de manière très significative et va devenir l'un des éléments constitutifs de notre identité, de notre patrimoine culturel, c'est justement le fait que, à partir du XVIe siècle, on a un État français, un État souverain, l'État royal, qui, au fond, joue ce rôle, d'une part, de favoriser la mise en place et le développement de cette politesse, qui a intérêt. Et voilà, c'est, je crois que le miracle de la politesse française, c'est finalement. Autre, on appelle le miracle capétien, à partir, au moins, si vous voulez, du début du XVIe siècle.
Frédéric Ovulas, peut-on dire ainsi, la France est polie parce que le roi est poli, et que le roi est fort et respecté.
Pas forcément que le roi est poli, mais de fait, il l'est.
Louis XIV l'est, à l'évidence.
Oui, Louis XIV l'est à l'évidence, mais voilà, il y a d'autres, voilà, je cite...
Où les élites sont polies.
Dans mon livre sur politesse et politique, par exemple, j'ai toute une réflexion sur, par exemple, la question du couteau. Vous savez, le couteau et la question du maniement du couteau à table. Est-ce que à table, on doit avoir des instruments qui peuvent éventuellement être utilisés pour blesser les autres? Et ça, c'est vraiment quelque chose de tout à fait passionnant, notamment lorsqu'on comprend que dans le monde chinois, par exemple, si on mange avec des baguettes, c'est parce que pendant très longtemps, il y a eu un empire chinois assez puissant pour interdire l'usage du couteau à table. Vous voyez, et en France, c'est à l'époque de Louis XIV que Louis XIV va prendre un édit qui interdit d'avoir des couteaux pointus à table. Si on a des couteaux à bourron, il n'y a pas de problème. Hein. On ne risque pas beaucoup de tuer son voisin. Si on a des couteaux pointus, c'est plus dangereux. Et il y a toute une série d'histoires autour de ça, notamment sur le fait que à la cour de Louis XIV et surtout à la cour de Louis XIII, il y avait un certain nombre de personnages très haut placé, hein, notamment le chancelier Séguier, qui était réputé pour son intelligence et aussi pour sa saleté repoussante et pour ça, voilà, qui avait l'habitude de se curer les dents à table en présence du roi avec son couteau à bout pointu. Et on raconte que c'est l'une des raisons pour lesquelles Richelieu d'abord et ensuite surtout Louis XIV ont décidé d'interdire à table les couteaux à bout pointu. Mais donc voilà. C'est pas simplement parce que le roi est poli, c'est parce qu'il y a effectivement un État structuré, un État royal qui est structuré, un État qui comprend que, pour reprendre les termes de Norbert Elias, notamment, voilà, la civilisation, c'est à la fois la conséquence et aussi la condition d'un État puissant et d'une autorité respectée.
Il ne reste malheureusement qu'un peu plus de 12 minutes à passer en votre compagnie, Frédéric Rovillois. Je vous évoquais dans l'histoire de la politesse, donc cette césure avec la Révolution, vous évoquez le rôle important de Madame de Genlis, d'ailleurs, hein, grâce à qui, en partie, effectivement, il y a une renaissance du savoir-vivre et de la politesse sous le consulat. Et pourriez-vous nous résumer l'histoire de ce savoir-vivre, de cette politesse jusqu'à nos jours, avec il y a une césure aussi qui est la Grande Guerre. Mais voilà. Et puis, bien sûr, moi, j'aimerais bien vous poser cette question. Que reste-t-il de la politesse en France au XXIe siècle? Y a-t-il toujours une politesse caractéristique de l'identité française, hein? Qu'en reste-t-il? Voilà. Donc je vous laisse faire...
Le déroulé, en quelque sorte, hein, il est assez simple. Hein, c'est comme on l'a vu, donc, la politesse française, elle se forme vraiment... elle acquiert toute sa consistance entre le XVIe et le XVIIIe siècle, donc la Révolution française. Et à la fin du XVIIIe siècle, on a effectivement une politesse française qui correspond vraiment, si vous voulez, aux différents éléments que j'évoquais, la distance, la souplesse, le raffinement. Voilà. On est vraiment à un sommet de la civilisation à l'époque de XV ou de Louis XVI. Les révolutionnaires arrivent et ils vont casser tout ça, comme je vous le disais, hein, éventuellement en interdisant un certain nombre de comportements, de gestes, de mots. Et le résultat, un peu comme en Chine après la révolution culturelle, le résultat, c'est qu'après le bulldozer révolutionnaire, il n'y a plus rien. Et l'époque du Directoire, par exemple, donc après la chute de Robespierre, c'est une époque où on se comporte n'importe comment. On se comporte n'importe comment, sur tous les plans. C'est une époque notamment où les femmes d'une certaine haute société se promènent dans Paris avec des robes tellement transparente qu'on voit absolument tout. Le résultat, c'est que on a une situation qui est quand même très très troublée sur beaucoup de plans. Et Bonaparte, arrivant au pouvoir après donc le coup d'État du 18 Brumaire, Bonaparte donc va reconstituer, grâce à Madame de Genlis, une sorte de politesse, mais une politesse qui n'est plus celle de l'Ancien Régime. Hein. Celle de l'Ancien Régime était effectivement beaucoup plus fluide, beaucoup plus particulariste, etc. Bonaparte va imaginer une politesse qui ressemble un petit peu à ce qu'il fait pour le droit civil, avec le code civil, donc une politesse qui est beaucoup plus codifiée, beaucoup plus régulée, etc. etc. Et c'est finalement sur cette base-là que va fonctionner la société française pendant ce que j'ai appelé l'âge d'or de la politesse bourgeoise, la société française jusqu'à la guerre de 14. Donc une politesse qui est très très codifiée avec des règles, avec des sanctions, avec des qu'on peut effectivement mettre dans des manuels de savoir-vivre pour que les gens l'apprennent. Avec la guerre de 14, on a une rupture très profonde. Notamment, on a un espèce de changement de mentalité, un changement de civilisation qui fait que certaines elles sont vraiment très fragilisées. On a l'impression que, au fond, c'est plus tellement important après la boucherie qu'on a vécue pendant 4 ans, si vous voulez. On se demande à quoi ça sert. Et par ailleurs, on a effectivement d'autres éléments qui entrent en jeu, et notamment une accélération des choses, hein, la fameuse accélération de l'histoire dont parle notamment Daniel Halévy, ou dont parle Paul Morand dans son célèbre roman qui s'appelle L'homme pressé, hein, L'homme pressé qui est un peu l'homme de l'époque, si vous voulez. Hein, or, la politesse, justement, c'est donner du temps aux autres. Lorsqu'on est pressé, on n'a plus le temps d'être vraiment poli, d'être sérieusement poli. Et donc, si vous voulez, les choses vont se déliter progressivement pendant l'entre-deux-guerres, puis avec la Seconde Guerre mondiale, puis, si vous voulez, en fait, mon hypothèse, c'est que mai 68, c'est un petit peu l'aboutissement de toute une évolution qui commence 50 ans plus tôt, en 1918. Et voilà, mai 68, c'est le moment où on n'y croit plus du tout et dans lequel, au fond, être grossier, être impoli, non seulement ce n'est pas un problème, mais c'est même plutôt bien, c'est plutôt recherché, puisque les gens polis sont finalement des petits bourgeois frileux et minables, comme ceux que nous décrivait dans l'imaginaire du 19e siècle, comme ceux que nous décrivait le professeur Chaline tout à l'heure. C'est la situation, je dirais, dans les années 70. Sauf qu'à ce moment-là, on va s'apercevoir de quelque chose de très important. Cette chose, c'est que, en fait, la politesse, elle est spécialement importante, spécialement vitale, si j'ose dire, pour les petites gens, pour les gens modestes, pour les gens à qui, finalement, avec lesquels on va être poli, même s'ils n'ont pas d'argent, même s'ils ne sont pas puissants, même s'ils ne sont pas des... Voilà. Alors que, de toute façon, les puissants, les riches, etc., savent très bien qu'avec eux, on va être poli. Hein, je veux dire, ils n'ont pas à être polis parce qu'ils s'en fichent. De toute façon, on sera poli avec eux. On sera serviable, on sera... Voilà. Et donc, je pense qu'il y a cette espèce de prise de conscience populaire à la fin des années 70 et dans les années 80, qui qui coïncide finalement à peu près avec le retour au pouvoir de la droite en 86, où on le voit avec les sondages, hein, la politesse qui était considérée comme complètement ringarde et grotesque jusqu'au milieu des années 70 commence à réapparaître comme une valeur importante, une valeur refuge, comme dirait l'autre, et que une valeur que les parents veulent absolument transmettre à leurs enfants. Parce qu'ils comprennent que c'est, voilà, que les valeurs républicaines, ça n'a pas beaucoup de sens, mais par contre, les valeurs sociales, comme celle-ci, ça en a beaucoup. La situation, finalement, actuelle est une solution, cette situation, à mon sens, extrêmement paradoxale. Je réponds un petit peu à votre dernière question.
Oui.
Une situation paradoxale. C'est-à-dire que, d'une part, effectivement, les gens comprennent que la civilité, c'est absolument indispensable. Et d'autre part, ils vivent dans un monde dans lequel les incivilités sont de plus en plus visibles, de plus en plus perçues comme dangereuses, comme stressantes. Hein, là aussi, il y a plein de sondages autour de ça, hein, sur le fait qu'en région parisienne, l'incivilité est vécue comme une cause majeure de stress par les habitants. Notamment par les femmes. Voilà. Et donc, la situation actuelle, c'est un peu ça, si vous voulez. C'est-à-dire, au fond, la politesse demeure effectivement quelque chose qui est perçu comme, qui est à nouveau perçu comme quelque chose d'important, sinon d'essentiel, quelque chose qui, effectivement, est l'un des éléments de cette identité française et de ce patrimoine français. Mais en même temps, eh bien, voilà, là aussi, il y a une sorte de grand remplacement et, qui se traduit par les incivilités et qui fait que on est à la fois dans une prise de conscience de cette importance et une prise de conscience également de ce que celle-ci est de plus en plus menacée. Elle est menacée, je dirais, en interne par la montée des incivilités. Elle est menacée de façon plus globale par... on va dire la perte de culture, hein, le recul culturel, la mondialisation, et pourquoi pas d'ici peu par le rôle de plus en plus important des réseaux sociaux, d'Internet, et pourquoi pas de l'intelligence artificielle.
Mais Frédéric Rouvillard, que vous soulignez la spécificité, la particularité de la politesse en tant que constitutif de l'identité française. Vous parliez de la distance, de la souplesse et du raffinement. Le raffinement a complètement disparu, vous le soulignez vous-même. Hein. Vous dites que les marques de considération et de respect... Pardonnez-moi, je vous lis justement, hein, les marques de considération et de respect sont beaucoup plus sommaires qu'auparavant. Le raffinement, là, en matière totalement disparu. Et vous citez l'horrible bise imposée et servie à tous et le tristement célèbre et comminatoire « bonjour
». Oui, le disque. Ça c'est vraiment.
Mais donc, est-ce qu'on peut-on dire que justement, ce qui faisait que cette politesse était constitutive de notre identité a disparu, le raffinement a disparu. Que reste-t-il de français dans notre politesse?
Non, mais le fait qu'effectivement, malheureusement, cette politesse soit de moins en moins respectée par certaines personnes ou mal comprise. Hein. Le bonjour, c'est une à mon sens, un signe très très intéressant, c'est-à-dire que la politesse qui est là pour polir les rapports entre les personnes, dans certains cas, est peut-être utilisée, est peut-être comprise complètement à rebours, en quelque sorte, et le bonjour comminatoire, les gens qui refusent, moi je me rappelle... C'est un souvenir vraiment cuisant. Il y a longtemps, j'ai donné des cours à l'ICES, donc
en Vendée.
En Vendée. Voilà. Et ensuite, je prenais le train et j'allais chercher un journal chez le marchand de journaux de la gare. Je lui disais, pardon monsieur, auriez-vous l'obligeance de me donner tel ou journal, etc. Et le type en question me regardait et me disait, bonjour. Et il était scandalisé que je lui
ai fait... Vous ne répondiez pas bonjour.
Comme si c'était une sorte de droit de l'homme, en quelque sorte. Alors j'avais été parfaitement, par ailleurs, parfaitement poli avec lui, etc. Et au bout de deux expériences de ce type-là, j'ai cessé d'aller dans ce kiosque à journaux pour lui acheter des trucs, parce que je n'avais absolument pas l'intention, effectivement, de me plier à cette vision absurde et fausse de la politesse. Et donc, ça n'a pas cessé d'être un élément de notre patrimoine, ni notre identité, pas plus que la langue française ou la culture. Mais effectivement, c'est un élément de notre patrimoine et de notre identité qui sont menacés, comme malheureusement beaucoup d'autres, hein, comme nous le savons bien, et comme vous le répétez souvent sur Radio Courtoisie.
Eh bien, merci beaucoup Frédéric Rouvillois d'être venu ce soir évoquer ce chapitre consacré à l'histoire du savoir-vivre et de la politesse que vous écrivez dans La Nouvelle Histoire de France aux éditions Passé Composé. On apprend quelque chose de très triste, c'est que là, en lisant votre chapitre, c'est que la baronne Staff n'était pas baronne. Elle qui mettait en avant le bon ton, elle n'était pas baronne. C'est affreux. Enfin, en tout cas, merci beaucoup à vous Frédéric Rouvillois. J'espère que vous reviendrez à ce micro pour évoquer justement l'histoire de la politesse. À très bientôt. Très bonne soirée à vous. Merci beaucoup.
À très bientôt. Merci infiniment. Au revoir.